On vous parle de logement parce qu'on est dans un contexte où il y a une crise du logement qui sévit non seulement au Québec, mais également dans les différentes régions, comme la Gaspésie. Et on a le comité Accessibilité Logement Côte de Gaspé, qu'on appelle le CAL, qui a entrepris à l'automne dernier une série de formations sur les droits des locataires. On vous en a d'ailleurs parlé à différents moments sur nos ondes. Et cette série de chroniques-là, qu'on débute aujourd'hui même, s'inscrit dans une démarche de démystification. Parce que c'est complexe, tout ce qui vient avec les droits des uns et des autres. Et donc, il y a des membres du comité qui sont bénévoles, qui vont venir nous visiter avec comme objectif de traiter d'un sujet pour vulgariser, pour autant comme les locataires et leurs proches puissent mieux comprendre leurs droits en matière de logement, qu'est-ce que les propriétaires de leur côté peuvent faire et ne peuvent pas faire. Donc, on va aborder tout ça dans les prochaines semaines. Et on débute aujourd'hui en compagnie de Camille Tremblay-Fournier, qui est membre du CAL. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline.
Alors, c'est un sujet qui est vaste. Très heureuse de pouvoir le couvrir en long et en large avec vous à raison d'une fois aux deux, trois mois. En tout cas, on va y aller avec un rythme qui tient compte de vos activités aussi, mais des préoccupations citoyennes. Donc, avant de commencer, je voudrais qu'on redise à quoi sert et qu'est-ce que fait le comité Accessibilité Logement de la Côte de Gaspé.
Bien, d'abord, merci de nous recevoir. On est un groupe autonome de mobilisation. On s'occupe principalement de la mobilisation sur les enjeux de logement dans la Côte de Gaspé, mais on traite aussi un peu de l'ensemble de la Gaspésie. On fait des activités d'éducation, d'information, mais on fait aussi du soutien individuel aux locataires là, dans la mesure de nos capacités.
Donc, vous êtes formés à force d'entendre des cas ici et là. Et aujourd'hui, on va commencer par la base en parlant de la recherche de logement et des discriminations potentielles. Donc, à quoi on doit porter attention?
Bien, d'abord, j'aimerais juste mentionner que le logement, c'est un droit hein, que tout le monde a. C'est pas un luxe. Hein. C'est pour ça qu'on voulait apporter aujourd'hui cet enjeu-là sur les discriminations lors de la recherche de logement, parce que ça arrive plus souvent qu'on le pense. Dépendamment des informations qu'on peut recueillir ou non, qu'un propriétaire peut recueillir, bien, des fois, il peut y avoir tendance à avoir certaines formes de discrimination. D'abord, qu'est-ce qu'on doit savoir, c'est qu'un ou une propriétaire a vraiment des informations clés qui peuvent recueillir, et c'est quand on, chez un locataire, c'est son nom complet, assez simple, son adresse, son numéro de téléphone pour la rejoindre, mais aussi c'est possible de lui demander sa capacité de payer. Puis ça, il y a différentes manières de faire. Bien, il y a la fameuse enquête de crédit, qui des fois donne de l'information, mais pas tout le temps. Il y a des gens qui n'utilisent pas le crédit, il y a des gens qui n'ont pas un bon crédit, mais qui peuvent quand même bien payer. Des fois, ça, on peut y aller par un endosseur, un parent, un proche, quelqu'un comme ça. Et également la capacité de maintenir les lieux en bon état. Alors ça peut aller avec une référence, par exemple une référence d'ancien propriétaire, locataire, propriétaire, ou le propriétaire actuel, ou quelqu'un qui pourrait connaître ta capacité à maintenir un lieu en bon état. Puis si la personne a le propriétaire voudrait utiliser une preuve d'identité, par exemple, pour valider l'identité de la personne, bien, il peut la regarder, l'observer, voir que c'est la bonne personne et ensuite la redonner, mais il n'a pas le droit de faire de copie, par exemple.
OK.
Ah, ça, c'est important à savoir. Et il peut demander également là, une enquête de crédit, comme on disait, puis à ce moment-là, il serait possible de demander la date de naissance, mais il n'y a pas plus d'informations là, qu'un propriétaire a le droit de demander lors de la signature d'un bail.
OK. Et quels sont les exemples d'informations qu'un ou une propriétaire ne peut pas exiger, que ce soit avant ou lors de la signature du bail en question?
Bien, à ce moment, on va peut-être défaire quelques mythes qu'on ne connaît pas parce qu'il y en a plusieurs. Puis c'est des choses qu'on observe vraiment beaucoup en Gaspésie. Un propriétaire, par exemple, ne pourrait pas demander de relevé d'emploi, un T4 ou tes impôts, ou savoir même à quel endroit tu travailles ou c'est quoi ton salaire. Un propriétaire ne pourrait pas non plus regarder tes antécédents judiciaires. Ça, c'est une information qui est vraiment personnelle. Demander ton numéro d'assurance sociale, numéro d'assurance maladie, ton passeport, c'est un nouvel arrivant. Peut pas demander non plus ton âge ou si tu as des enfants ou ton statut marital. Puis un propriétaire ne peut pas non plus demander combien de personnes vont vivre avec toi dans le logement. Est-ce que tu as un chum, une blonde? Est-ce que des fois, tu as la garde de tes enfants, par exemple?
Mais j'ai comme l'impression que des fois, ça arrive que ce type d'information-là est demandé, hein?
Oui, ça arrive quand même vraiment souvent. Souvent, ouais. Les propriétaires veulent savoir à qui ils ont affaire, mais c'est important de savoir que légalement, c'est des pratiques qui sont illégales. Mm. Pourquoi c'est illégal? Mais c'est qu'on ne veut pas discriminer dès la signature du bail. C'est que tout le monde peut avoir droit à un logement. Puis ces informations-là n'amènent pas des réelles informations sur la qualité d'un locataire, par exemple. Alors, on veut vraiment s'assurer là, que tout le monde puisse avoir un toit.
Mm. Et est-ce qu'un ou une propriétaire peut rester le nombre de personnes qui vivent avec le locataire à la signature du bail?
Mais ça, c'est un très bon mythe aussi, puis on l'entend beaucoup en Gaspésie. Par exemple, dans les restrictions, mais pas de colocataires, pas d'enfants, pour personnes seules ou travailleurs. On le voit souvent dans affiches là, de logement ou sur Internet passer. Mais ça, c'est toutes des pratiques qui sont aussi discriminatoires et illégales. Alors, c'est possible. Mm. Le propriétaire n'a pas le droit de restreindre le nombre de personnes qui habitent dans un logement, à moins qu'il y ait des règlements là, sur les incendies là, dans le logement. Mais à ce moment-là, il doit en informer vraiment tout le monde. Mais tout le monde a le droit de pouvoir vivre avec leurs proches, leurs enfants, leurs conjoints, conjointes.
C'est ça. Ils ont le droit d'avoir une vie.
Oui, les femmes ont le droit de tomber enceinte si elles veulent également.
Ah, bon, mais je suis contente de l'apprendre. Non. On fait des blagues, mais c'est qu'il y a beaucoup de situations. Et peut-être aussi que certains propriétaires ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller. Donc, c'est ça qui va permettre la chronique, entre autres, de démystifier à la fois pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires. En terminant, Camille, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les droits des locataires quant à la recherche de logement?
Bien, c'est sûr qu'il faut lutter contre les pratiques discriminatoires. Ça veut dire que si on est victime ou quelqu'un est victime près de nous, bien, de les aider à porter plainte, par exemple, à la Commission sur les droits des personnes. On peut aussi refuser les dépôts. Je ne l'ai pas nommé rapidement, mais les dépôts de garantie, on l'entend beaucoup en Gaspésie, mais c'est une pratique illégale et discriminatoire, ça aussi. Si un propriétaire nous demande un dépôt, on peut simplement le refuser. Alors, refuser les pratiques qui sont discriminatoires, se renseigner auprès de son comité logement local, c'est possible, comme nous écrire, puis le plus possible, essayer de promouvoir des pratiques qui sont égalitaires et non discriminatoires.
Excellent. Et la meilleure façon pour vous joindre, bien, vous avez notamment une page Facebook, Comité Accessibilité Logement Côte de Gaspé, local. Et à cet endroit-là, on retrouve votre adresse courriel et votre numéro de téléphone pour pouvoir accompagner les locataires.
Oui, pas gêné à nous écrire par courriel. Sur Facebook également, c'est possible de nous retrouver ou nous appeler, nous laisser un message sur la boîte vocale. On est là pour ça.
Vous êtes combien de membres au sein du CAL?
On est 5 membres actifs actuellement. 5 militantes bénévoles. Oui.
Et merci de faire ça pour les différents locataires de la Gaspésie. Côte de Gaspé, mais je sais que vous répondez à des demandes qui débordent de notre MRC. Alors, Camille Tremblay-Fournier, tu as été la première à casser la glace avec cette toute nouvelle chronique du Comité Accessibilité Logement Côte de Gaspé. Je vous invite à vous référer à leur page Facebook. Plusieurs activités à venir tout au long de l'année. Merci beaucoup, Camille.
Merci, Caroline.